Un jour, un livre, un auteur, c'est une chronique de prévention. Aujourd'hui, avec vous, Philippe Nonni, Diego Arabal et votre invité. Bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour Diego Arabal.
Bonjour Philippe, bonjour Gilles. Et plaisir de parler de prévention
Plaisir
aujourd'hui.
de parler de prévention, tout à fait. Alors, je le concède, je le dis souvent dans le travail qui est le mien en dehors de Radio Présence et de Un jour, un livre, un auteur. Je dis souvent que j'ignore si l'on peut mourir intelligemment, mais le livre que nous allons maintenant présenter va nous rappeler que, assurément, on peut mourir connement. Chacun, chacune d'entre nous a forcément été confronté, de près ou de loin, à un accident de voiture où des jeunes gens, mais aussi des moins jeunes, sont morts au volant. En cause, l'alcool. Avec cette question lancinante et essentielle, comment sensibiliser les jeunes aux dangers de l'alcool? Pour en parler, nous recevons une spécialiste du domaine qui a publié plusieurs ouvrages, dont le dernier, Sa première cuite, manuel de prévention positive autour de l'alcool, un ouvrage passionné et passionnant. Bonjour Guylaine Bénec.
Bonjour.
Sa première cuite, manuel de prévention positive autour de l'alcool. Je vais lire la quatrième de couverture de votre ouvrage. En France, nous produisons de bons vins, mais lorsqu'il s'agit de faire de la prévention, nous ne sommes pas des champions. Résultat, nos ados prennent leur première cuite en moyenne à 15 ans, ce qui est bien trop tôt. À cet âge, leur cerveau est en pleine maturation et l'alcool est particulièrement nocif. Ce livre invite les parents, les grands-parents et tous les adultes ayant la responsabilité d'éduquer un enfant ou un adolescent à adopter une nouvelle posture éducative plus soucieuse de prévention. Dans un langage accessible et souvent drôle, Guylaine Bénec expose les méthodes les plus efficaces pour accompagner nos jeunes et leur parler sans tabou d'alcool. Elle présente les données issues de la recherche scientifique internationale pour nous aider à préparer au mieux nos enfants à leur future vie d'adulte. Parlez-nous un peu, Guylaine Bénec, d'abord de votre parcours professionnel qui vous a amené à maîtriser ces sujets pour composer ensuite ces ouvrages passionnants, et notamment celui que je viens de citer, Sa première cuite, manuel de prévention positive autour de l'alcool. On vous écoute.
Eh bien, moi, je suis sociologue de formation initiale. J'ai fait des études en France et au Québec et j'ai découvert la santé publique au Québec un petit peu par hasard parce que je travaillais sur la question des mouvements politiques amérindiens, donc a priori rien à voir. Mais j'ai eu la chance de me voir proposer un poste dans un organisme amérindien. On m'a demandé de coordonner le programme de prévention du VIH-Sida au sein des Premières Nations. Et c'est comme ça que j'ai découvert la santé publique et que je me suis découvert une passion pour ce sujet. Et quand je suis rentrée en France après 8 ans au Québec, eh bien, j'ai eu la chance de rejoindre un centre régional sur les drogues et dépendances en Bretagne et on m'a confié le dossier de la prévention de la consommation d'alcool des jeunes Bretons. À ce moment-là, je n'y connaissais pas grand-chose. On était au début des années 2000 et je me suis rendu compte que c'était un sujet non seulement important, mais en plus véritablement passionnant. Et voilà, ça fait maintenant 17 ans que je travaille sur cette thématique avec l'envie de transférer au plus grand nombre les résultats de la recherche scientifique sur ces thématiques importantes.
Je me suis posé la question quand j'ai lu votre livre, je me suis demandé si au pays des Gaulois, il était difficile d'arriver à faire, à coordonner une politique de prévention au sujet de l'alcool, parce qu'on va en parler après, quand on lit votre ouvrage, on se rend compte que bon, il y a la loi Évin, tout le monde aujourd'hui effectivement évoque la loi Évin, mais on se rend compte en lisant votre ouvrage, de la manière dont la loi Évin, effectivement, a été tout doucement détricotée. Et est-ce que donc aujourd'hui, c'est possible d'arriver au pays des Gaulois, de faire une politique de prévention, sachant aussi qu'on est un pays producteur de vin et que, on le voit, vous le citez dans votre ouvrage, notamment ben, des représentants de la nation, des députés qui par moments disent, ben oui, mais chez nous, c'est une culture. Est-ce que c'est possible d'arriver à faire une politique de prévention chez nous avec tout ce que je viens effectivement de dire à l'instant?
Oui, c'est possible. Alors, il y a de nombreux freins, mais la société change. Hein. Moi, je vous disais, ça fait maintenant 17 ans que je m'intéresse au sujet. J'ai vu beaucoup, beaucoup de choses évoluer en France. Alors, il est vrai, hein, vous avez raison, nous avons des obstacles économiques, culturels, politiques à la prévention. Nous sommes un grand pays producteur. On a des groupes d'intérêt qui exercent énormément de travail d'influence auprès des décideurs, notamment qui ont détruit, vous l'avez évoqué, en grande partie la loi Evin. On a des pratiques aussi, on a des habitudes, toute une culture. Enfin, il y a énormément de difficultés. Et c'est vrai que il y a une quinzaine d'années, quand je me présentais, quand je disais que je travaillais en prévention de la consommation d'alcool, on me jetait des regards presque inquiets, outrés. Mais qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Mais j'ai vu la société changer vraiment. Et je crois d'ailleurs que la société civile est en avance sur les politiques, parce qu'on a de plus en plus, on le voit dans les sondages, la population qui est en attente de plus de prévention autour de l'alcool, qui a pris conscience de l'influence délétère des acteurs économiques, du poids des lobbies, et qui demande une véritable politique. Et on a fait, dans nos métiers de prévention, on a fait aussi beaucoup de progrès. Donc je trouve que c'est tout de même très encourageant, et il va falloir encore des années, hein, une société, ça prend du temps pour changer, mais je crois que tout est là pour qu'on y arrive dans quelques temps.
Quand vous dites on a fait des progrès, alors de quel type de progrès vous parlez effectivement, pour essayer de rentrer maintenant là dans le détail, a-t-on fait pour améliorer effectivement la politique de prévention par rapport à la consommation d'alcool chez les jeunes? Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu tout cela, s'il vous plaît?
Il y a eu énormément de recherches, hein, et c'est ça que les gens souvent ignorent, mais on a derrière nous maintenant plusieurs décennies de recul dans la recherche scientifique. On a des groupes de recherche, alors à travers la planète, hein, qui étudient l'alcool d'une part, mais qui étudient aussi les différentes approches de prévention pour savoir lesquelles marchent, ne marchent pas. Ce sont des recherches très longues et onéreuses, mais on a, comme je vous le disais, plusieurs décennies de recul, si bien qu'aujourd'hui on connaît très bien l'alcool, on connaît très bien les dommages de l'alcool à l'adolescence, on a des informations qu'on n'avait pas il y a 15 ou 20 ans, et on s'est vraiment distingué, parce qu'il y a eu des grandes évaluations, il y a eu plein de travaux, on s'est distingué des approches efficaces, pas efficaces, et de plus en plus, tout ce que font les associations, les acteurs de prévention, parfois les autorités de santé, s'inscrivent sur des données probantes issues de la recherche. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est sorti d'une vision, je dirais, un peu intuitive de la prévention, où on fait des choses parce qu'on se dit, tiens, voilà, ça peut être bien, ou sur la base de représentation, pour aller vers une approche véritablement scientifique de la prévention.
Si vous prenez l'émission Cours de route, nous sommes avec Guylaine Bénec, qui a écrit sa première cuite, manuel de prévention positive autour de l'alcool, et on parle de politique de prévention de l'alcool, effectivement, chez les jeunes. En page 173 de votre ouvrage, Guylaine Bénec, alors il y a une phrase qui m'a marqué. Je ne pensais pas en le lisant que c'est cette phrase-là qui m'aurait marqué. C'est une phrase de votre frère aîné à la naissance de votre fille, et qui m'a inspiré effectivement après la question qui va suivre. Je vais lire cette phrase. Être le parent d'un enfant, c'est être le parent de plusieurs enfants. Un bébé d'abord, puis un enfant d'âge scolaire, un ado et enfin un adulte. À chaque étape, on dit adieu à l'enfant qui a été pour faire la connaissance de celui qui le remplace. Je me suis posé la question quand j'ai lu cette phrase, qui arrive à point nommé, je trouve, à la page 173 de votre livre, une fois que vous avez fait état des différentes politiques de prévention. Je me suis demandé comment parvenir à faire de la prévention quand on a affaire à tous ces êtres qui se succèdent, et que là, que l'on a un nouvel interlocuteur, une nouvelle interlocutrice. Je me suis posé la question d'une politique de prévention au niveau familial. Comment on fait au niveau familial, quand on est père ou mère, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui ont des enfants qui vont se succéder avec ces différents âges tels que vous les avez dit, comment on fait pour arriver à parler d'alcool et à sensibiliser les enfants à la consommation d'alcool ?
Oh, ben, je crois qu'on le fait comme on le fait pour tous les autres sujets de la vie. On s'adapte à notre enfant, on l'écoute, on lui pose des questions, on essaie de savoir ce qu'il pense, ce qu'il a dans la tête, ce qu'il connaît, ce qu'il ne connaît pas. Et on s'adapte. Je crois qu'être parent, c'est vraiment ça, c'est s'adapter et puis évoluer avec notre enfant. C'est souvent tâtonner, peut-être faire des erreurs, demander conseil. Voilà, se dire qu'on va faire du mieux possible au jour le jour et si possible, aller aussi se renseigner pour avoir quelques repères sur ce qu'on peut dire, comment s'y prendre à chaque étape de la vie. Mais je crois que les parents sont hyper compétents parce qu'ils vivent au quotidien avec leurs jeunes et quand ils observent et sont attentifs, je pense que ça, je ne vais pas dire que c'est facile, mais dès lors que les parents ont les bonnes informations, je pense que ce sont eux qui sont le plus compétents pour parler à chaque étape, à chaque âge, à leurs jeunes. Et en général, ça se passe bien.
Alors, vous donnez effectivement des principes. Moi, j'ai trouvé que les questions que vous proposez, elles sont vraiment très bien parce que très simples de la façon d'être posées. Je vais le lire, c'est toujours en page 173. De dire à son enfant, sais-tu ce qu'est l'alcool? As-tu déjà vu une personne ivre? Pourquoi est-il interdit de vendre de l'alcool aux mineurs, selon toi ? Après, vous avez un principe numéro 2, d'utiliser toujours des mots précis, de dire, expliquez à votre ado que durant la grossesse, c'est zéro alcool. Pourquoi effectivement qu'il y ait zéro alcool ? Alors, ce que j'ai appris, c'est qu'y compris pour un homme, au moment où on va concevoir, effectivement, on décide de concevoir un enfant, il faut aussi avoir effectivement zéro alcool, parce que l'alcool peut aussi avoir un effet effectivement sur les spermatozoïdes. Ça, je vous avoue que je l'ai appris, je l'ignorais. Moi, je pensais que c'était juste du côté effectivement féminin qu'il fallait arrêter la conception d'alcool. Et ça, c'est... qu'est-ce que j'ai dit ?
La conception.
Ah, la conception. Ah, la consommation. Merci de me reprendre. J'en fais une à chaque fois. Merci. La conception d'alcool. Vous voyez, c'est un lapsus révélateur.
Ouais, ça. L'absus, c'est intéressant.
Il faudra faire un point de montage, je pense.
Vous allez pouvoir vous allonger là sur le canapé derrière et me raconter un peu.
Voilà.
Oui, on va parler en off après l'émission.
Voilà, exactement. Et après, je vais passer, c'est en page 298 de votre ouvrage, vous présentez un peu les différentes politiques qui ont été faites par plusieurs pays, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément, ça. Les politiques de prévention mises en place par certains pays, par exemple, vous citez les États-Unis. Alors moi, je me disais, bah, tiens, les États-Unis, pays du libéralisme économique, ben, voilà, ça va être open bar, quoi. Chacun va pouvoir faire ce qu'il veut,
c'est
même pas du tout.
Le dire.
Ouais, exactement. Et on va voir que ce n'est pas du tout le cas. Je vais lire en page 298. Dans la plupart des pays du continent américain, la consommation d'alcool est interdite avant 18 ans, même en présence des parents. Aux États-Unis, l'augmentation à 21 ans de l'âge minimum légal pour boire de l'alcool a été associée à une réduction de la mortalité par suicide et une réduction des décès des jeunes sur les routes la nuit. Vendre de l'alcool aux mineurs est mal vu. Les commerçants n'hésitent pas à demander à une personne de justifier son âge si elle semble avoir moins de 25 ans. Les marques d'alcool doivent apposer sur les étiquettes des contenants des avertissements sanitaires bien visibles, inscrits en gras et en majuscules, destinés à rappeler la dangerosité de l'alcool chez les femmes enceintes et au volant. Enfin, les autorités communiquent activement vers les parents pour les informer des risques spécifiques pour les jeunes. La campagne Talk, They Hear You, parler, ils vous écoutent, invite les adultes à avoir des conversations régulières sur l'alcool avec leurs enfants aux différents âges de la vie. Vous citez comme ça plusieurs pays, l'Écosse, l'Irlande, l'Islande. L'Islande, par exemple, qui adopte à la fin des années 90 une politique de prévention globale Youth in Iceland, la jeunesse en Islande, grâce à laquelle la consommation d'alcool et d'autres drogues chez les mineurs a chuté de façon spectaculaire. Est-ce que ce qu'ont fait les autres pays, Guylaine Bénec, est-ce qu'on peut arriver à s'en inspirer en France ou est-ce qu'il y a pour chaque pays une culture qui fait que, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a des freins qui vont empêcher certaines politiques de prévention sur l'alcool de se mettre en place ?
Oui. On peut tout à fait s'en inspirer. D'ailleurs, la communauté de prévention, de santé publique s'organise de plus en plus au niveau international en partageant des connaissances, des informations. Vous savez, une société, ça évolue. La situation aux États-Unis et dans d'autres pays est très différente en effet de la France parce que, on le disait tout à l'heure, nous sommes producteurs d'alcool pour tous ces freins culturels, etc. Mais une société, ça change et on voit que les jeunes gens n'ont plus du tout le même discours sur l'alcool que les générations précédentes et ont envie aussi de s'inspirer de ce qui fonctionne ailleurs. On est aujourd'hui dans un monde globalisé avec Internet, les réseaux sociaux et toutes les occasions de rencontres. Donc oui, je pense que il y a beaucoup de perspectives pour la France et ce qu'on souhaite maintenant, c'est que nos décideurs suivent ce grand mouvement qui est issu des chercheurs, qui est issu de la société civile et petit à petit, je suis optimiste. Optimiste, on finira par adopter en France parce que les adultes sont soucieux de leur jeunesse, les parents veulent protéger leurs enfants et à partir du moment où ils savent qu'il y a des choses qui peuvent protéger leurs enfants et que ça fonctionne ailleurs, ils vont exiger, je l'espère, de leurs dirigeants de mettre en place des politiques publiques. Donc je suis confiante, mais ça prendra du temps.
Alors ça prendra du temps et ce que j'ai trouvé très bien également dans votre ouvrage, c'est vous invitez effectivement à regarder un peu comment les jeunes fonctionnent, notamment par rapport à la préservation de l'environnement. Vous dites en page 212, par exemple, vous écrivez en page 212, il faut 870 litres d'eau pour produire un litre de vin. Je le redis, il faut 870 litres d'eau pour produire un litre de vin. Moi je l'ignorais totalement, très franchement. Produire un litre de spiritueux rejette 1,5 kg de CO2 dans l'atmosphère. Au Royaume-Uni, une bouteille de whisky écossais parcourt en moyenne 879 km. Donc ça veut dire, dès lors qu'on le transporte effectivement, production de CO2, consommer une bière par jour pendant un an équivaut en matière d'émissions de gaz à effet de serre à parcourir 1000 km en voiture. Diego Arabal, je vous sens, je vous vois, non ? J'ai l'impression que vous êtes un peu, que vous êtes assis par tous ces résultats.
Oui, mais je vais boire un peu moins de bière, peut-être.
Bon,
et ça me fera moins de kilomètres.
Et ce qui est très intéressant quand vous mettez là, c'est que ces arguments-là que vous donnez, ce sont les arguments notamment que m'a donné ma propre fille, en me disant, mais papa, est-ce que tu sais la consommation d'énergie, d'eau qu'il faut pour fabriquer de l'alcool ? Je me suis rendu compte en lisant votre livre que ça faisait écho effectivement avec les discussions que j'ai avec mes enfants et que je me rends compte que leur consommation d'alcool aujourd'hui ne passe pas forcément, alors eux ils consomment pas d'alcool, mais ils ne passent pas forcément par le fait de dire c'est dangereux, c'est pas que ça comme message, c'est aussi ça produit du CO2. Et je ne pensais pas que cet argument-là aurait pu être un argument effectivement fondateur pour eux. Or c'est le cas, comme pour la consommation de viande au demeurant.
Oui, je pense que toutes ces thématiques sont liées, hein, les questions de consommation. Nous, en santé publique, on parle d'épidémie industrielle et ce sont des réflexions globales, quels que soient les produits.
Alors après, ce que j'ai beaucoup apprécié dans votre livre, j'invite vraiment les auditrices et les auditeurs à le lire, hein, de Guylaine Bénec, sa première cuite, manuel de prévention positive autour de l'alcool. C'est à la fin de chaque chapitre. Vous nous donnez des infos et par exemple, en page 175, vous écrivez à la fin, et ça je trouve que c'est très bien, à vous de jouer. Votre mission consiste à lancer une conversation en famille sur l'alcool ce soir à partir d'une actualité récente. Trouverez une accroche percutante pour lancer le sujet. Et tous les chapitres, vous proposez à un moment donné donc un mode d'emploi. En page 168, par exemple, vous dites à vous de jouer. Je vous propose une réflexion philosophique. Êtes-vous d'accord avec cette hypothèse que je formule intuitivement mais qui mériterait d'être approfondie? L'alcool empêche nos adolescents d'exprimer leur vrai potentiel car il les détourne de ce pourquoi ils sont programmés, entre guillemets, à savoir découvrir le monde, explorer de nouveaux horizons, créer, s'engager collectivement, se dépasser. Derrière chaque cuite se cache une prise de risque saine à laquelle notre jeune a renoncé. Je trouve ça très bien. Ça a été... Quelle a été la volonté dans ce roman quand vous faites ça ? Ça a été de nous interpeller et de faire en sorte qu'à un moment donné, on devienne acteur ?
Déjà, je vous remercie d'avoir lu aussi attentivement et puis pour votre retour sur mon livre. En fait, ça fait écho à ce que je vous disais tout à l'heure. La prévention a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on est sorti d'une approche qui consiste à dire, bon ben voilà, on va dire aux gens quoi faire, on va leur dire... les bons comportements à adopter. C'est plus du tout ça, hein, la prévention depuis quelques décennies. La prévention, ça consiste à donner les bonnes ressources, les bonnes informations à des personnes qui sont, qu'on considère comme libres, intelligentes et qui vont pouvoir décider par elles-mêmes, juste à condition d'avoir les bonnes informations. Et moi, quand j'ai écrit ce livre, je visualisais vraiment en face de moi une lectrice, un lecteur, comme dans ma vie de tous les jours, on discute et je ne fais que voilà, donner des informations, puis demander à la personne ce qu'elle en pense, l'inviter à réfléchir, puis m'en parler aussi. Il y a beaucoup de gens qui m'ont aidé dans l'écriture de ce livre, parce que je pense que sur un sujet aussi, aussi fort, aussi, qui vient nous chercher aussi profondément, hein, cette question de l'alcool, ça fait écho chez beaucoup de gens à des souvenirs, à des expériences fortes, ce sont les lectrices et les lecteurs qui ont les réponses. C'est pas moi, enfin, je sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais j'avais vraiment envie de leur dire, on est assis, on boit un thé, un café ensemble, on discute, et puis faites votre expérience par vous-même, et puis vous allez voir si ce que je raconte, ça fait écho, mais faites ces expériences-là, et on a tous ensemble quelque chose à construire. Et ce livre, je l'ai écrit aussi en le soumettant très régulièrement à ce qu'on appelle des bêta-lecteurs, avec notamment des mamans, des papas, des jeunes gens qui lisaient certaines parties, qui faisaient ces exercices. Donc voilà, ça a été construit de manière interactive pour donner la parole à chacun. Et puis c'est aussi une des formations de mon travail de formatrice. J'anime des ateliers, des conférences, des formations, et à chaque fois, j'invite les gens à s'exprimer et j'apprends autant d'eux que ce que je l'espère ils apprennent de moi.
Vous allez avoir votre interview qui va être diffusée, Guylaine Bénac, à compter du 13 novembre. Est-ce que vous parliez de conférences à l'instant, de rencontres, est-ce que vous avez des dates de conférences que vous pourriez communiquer donc dans l'interview où les personnes qui l'entendront pourront venir effectivement vous voir, vous écouter et échanger avec vous?
Alors, pour l'instant, les dates ne sont pas arrêtées, hormis une conférence qui aura lieu le 14 novembre à Perros-Guirec en Côte d'Armor, mais ce sera un peu juste, je pense, pour les auditrices et les auditeurs. Néanmoins, j'ai la chance de lancer un grand programme qui s'appelle « C'est ma tournée ». Et je vais avoir la chance tout au long de 2024-2025 de donner des conférences chaque mois dans au moins une ville française différente. Le programme n'est pas encore établi, mais il y aura Grenoble, Lyon, Paris, probablement Amiens. Enfin, il y aura plein de villes et on pourra soumettre mon agenda en ligne. Je l'alimenterai en temps réel sur le site sapremièrecuite.fr et j'espère bien avoir l'occasion de revenir dans votre... Pardon,
mon micro. D'accord. On rappelle le nom de votre site donc sur lequel on pourra le faire, sapremièrecuite.fr, pour retrouver le programme de toutes vos conférences que vous aurez donc au travers de la France. C'est bien
oui,
ça.
Oui, c'est ça. Il y a une rubrique agenda, conférence, dans laquelle je mets à chaque fois les dates et toutes les informations.
Parfait. Donc, on invite les auditrices et les auditeurs qui souhaitent le voir. Est-ce que ces conférences sont filmées et sont diffusées sur une chaîne vidéo pour les personnes qui ne pourraient pas y assister et qui pourraient la voir après par le biais d'un lien sur Internet?
C'est pas prévu pour l'instant, mais ça sera probablement en cours d'année. Et là encore, je mettrai toutes les informations sur le site sapremièrecuite.fr.
Parfait. On rappelle votre ouvrage, Guylaine Bénec, Sa première cuite, manuel de prévention positive autour de l'alcool. On vous remercie vraiment d'avoir accepté notre invitation, donc d'un jour un livre, un auteur au niveau de présence. Et puis, on compte sur vous quand vous sortirez un autre ouvrage pour revenir vers nous, qu'on puisse à nouveau, donc effectivement, parler avec vous de prévention positive. On insiste bien sur le terme de prévention positive autour de l'alcool. Voilà,
c'est
Gilles.
C'est moi qui vous remercie.
Eh bien, écoutez, c'est avec grand plaisir. Voilà, Gilles, ce que l'on pouvait dire.
Voilà, un sujet très intéressant et très bien abordé à travers donc ce livre qu'on conseille à nos auditeurs.
Voilà, Guylaine Bénec, Sa première cuite, manuel de prévention positive autour de l'alcool. Et on se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Merci à vous.
Avec un petit non, sans.
Allez, à la semaine prochaine.
Merci Philippe Noni, Diego Arabal, un jour au livre en auteur. À la semaine prochaine.
Merci, à la semaine prochaine, au revoir.